Bien, comment préparer le sol lorsqu'on veut s'adonner à des activités agricoles, vous savez, pour s'attendre à un bon rendement? La préparation du sol est une étape très importante, d'après les experts. Alors, pour ce faire, certains paysans recourent parfois à des pratiques peu recommandables, et cela n'est pas sans conséquence sur les cultures. Alors, comment préparer les sols réservés aux activités agricoles, et comment amender, par exemple, un sol fatigué? Philippe Ngolo, ingénieur agronome, est en ligne depuis la ville de Mbujimayi. Philippe Ngolo, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, dites-nous comment s'est fait la préparation du sol lorsqu'on veut commencer des activités agricoles.
Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir donné cette opportunité de partager avec les autres mes humbles efforts. Les éléments que nous avons à ce qui concerne la préparation du sol. Je dis tout d'abord que la préparation du sol, comme les autres façons culturelles, est une contribution à la réalisation des bonnes récoltes, des bons rendements. Elle doit se faire dans le strict respect de la saison culturelle, du calendrier culturel.
Oui. Philippe? Voilà, je crois qu'il n'est plus en ligne. On va tenter de le joindre de nouveau. Il est ingénieur agronome. Philippe intervient depuis. Il était en train d'intervenir depuis Mbujimayi. Tati Mapoukou fait de son mieux pour le rappeler. Alors, vous avez des questions et préoccupations par rapport à ces thèmes. Appelez-nous déjà pour participer. Le standard est ouvert. Composez le 081 890 63 94. Vous pouvez également nous écrire à service@radiocapi.net et faites-nous parvenir vos SMS au 081 711 50 01. Nous sommes en train de parler aujourd'hui de la préparation du sol réservé à l'agriculture. Donc, pour s'attendre à un bon rendement, la préparation du sol est une étape très importante. Et pour ce faire, certains paysans recourent parfois à des pratiques peu recommandables. Nous allons en parler avec notre invité Philippe Ngolo. Vous êtes de nouveau en ligne. Vous êtes ingénieur agronome, intervenant depuis Mbujimayi. Alors, vous étiez en train de dire qu'est-ce qu'il faut, quels sont les préalables pour mieux préparer le sol?
Oui, je disais que la préparation du sol, monsieur le journaliste, comme les autres façons culturelles, est une contribution à la réalisation des bonnes récoltes, des bons rendements. Elle doit se faire dans le strict respect de la saison culturelle, du calendrier culturel. Pourquoi préparer le sol, le journaliste? À court terme, pour réaliser les bons rendements, des bons résultats à la récolte. À moyen terme, et long terme, pour enrichir, améliorer et entretenir la qualité du sol, pour restaurer la capacité de production du sol. Alors, comment s'y prendre pour obtenir une préparation efficace? En mettant les sols dans les meilleures conditions pour réussir les semis, permettre un bon développement des cultures et en faciliter les récoltes. Les façons qui sont utilisées pour la préparation du sol sont les suivantes. Par exemple, le labour. Et les façons qui tirent dépendent des cultures. Par exemple, le labour. Le labour constitue l'une des opérations classiques de travail du sol. Elle consiste à retourner la terre pour assurer une bonne préparation du sol, pour réaliser l'enfouissement des fumiers, des résidus de récolte, des engrais verts, des herbes. L'importance du labour sur le sol. Il accroît la porosité globale et l'amaigrissement du sol. Il améliore le régime hydrique, meilleure infiltration, moins de ruissellement. Il diminue la susceptibilité du sol à l'érosion, la boue, suivant la courbe des niveaux, pour des terrains en pente. Alors, pourquoi nous devons faire les labours, l'importance des labours sur les cultures? Il facilite la assimilation de densité des racines et l'enrichissement. Il améliore le rendement des cultures. Il constitue un moyen de lutte contre les adventices et contribue à la protection des cultures contre les concurrents. Alors, si les modalités de réalisation de labour, l'instrument utilisé, Il y a, par exemple, pour les paysans dans les villages, ils utilisent les houes. Et pour certaines unités mécanisées, ils utilisent les charrets à soc avec versoir. Et avec versoir, ils utilisent aussi les charrets à disque, sont utilisés pour le défrichement récent et pour les labours d'enfouissement. Alors, la profondeur de la boue de profondeur est fonction de la culture. Il y a les cultures qui demandent un labour profond, par exemple des racines et des tubercules. Il y a aussi des cultures qui demandent des racines et des labours superficiels. Par exemple, les grains, notamment l'arachide, les nievés, les soja, tout ça. Mais dans tout cela, la réussite de la préparation du terrain est un élément capital pour de bonnes récoltes. Alors, lorsque vous voulez préparer votre terrain, par exemple des labours du sol, quelle est l'humidité requise? Les labours à sec est déconseillé parce qu'ils forment de grosses mottes, ils usent des pièces travaillantes. L'humidité optimale pour un bon labour se situe autour de 15 à 15% en sol léger. Il faut effectuer les labours quand le sol est encore humide.
Alors, Monsieur Philippe, on peut dire que l'activité, la première activité à faire, c'est le labour. Hein. Et pourtant, oui, et pourtant, nous voyons par exemple dans nos villages, lorsque les paysans veulent préparer les sols, ils commencent par défricher, ils coupent les arbres, et puis parfois on met le feu de brousse hein, qui peut s'étendre et causer des dégâts. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela?
Oui, mais c'est le journaliste, c'est-à-dire ça dépend maintenant des zones. Par exemple, pour la forêt, ils font par exemple les feuillages, ils coupent, ils attendent, ils incinèrent et ils sèment. Avant de semer, certains, il faut aussi les labours. Il y a aussi ceux qui viennent en savane. Les savanes, les labours, ils fauchent aussi. Il y a certains qui fauchent à la main et labourent aussi. Mais ce que je parle maintenant, par exemple, de l'agriculture mécanisée, il faut les labours pour une bonne préparation du terrain, ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est que vous parlez de fauchage, de fauchage, couper les arbres, tout ça, c'est aussi ce sont les éléments préliminaires de préparation du terrain. C'est en fait partie aussi des façons culturelles.
Okay. Mais est-ce qu'on peut dire que le feu de brousse est une bonne pratique dans le cadre de la préparation du sol? Est-ce que ça apporte un plus au sol?
D'abord, d'ailleurs, là, ce que nous avons toujours parlé, parce que vous savez, au plateau de Batiké, nous avons développé des techniques durables, l'agriculture durable. Nous, avec l'effet de brousse, c'est un élément détruisant vraiment de l'agriculture qui réconcilie l'environnement et l'agriculture. L'effet de brousse détruit tout, la fertilité, emporte la biodiversité, emporte beaucoup d'histoires. Alors, c'est ainsi que nous, l'effet de brousse, on a toujours déconseillé le problème de l'effet de brousse.
Voilà, vous avez toujours déconseillé l'effet de brousse. Alors, à la place, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, à la place, qu'est-ce qu'il y a? Nous, on a toujours demandé, et d'abord, de pouvoir laisser les places. Par exemple, en savane, arriver à faire un fauchage, par exemple, un labour, un rabattage. Les rabattages, vous faites les rabattages, et avec ça, vous faites un labour, le labour qui peut enfouir ces résidus-là. Ces résidus-là vont se décomposer, qui vont permettre au sol d'obtenir l'humus. Et l'humus qui peut arriver à contribuer au bon rendement des cultures. Dans ce sens-là.
Et comment c'est fait ça?
Alors, lorsque vous incinérez, vous entrez d'appauvrir le sol, les petits éléments d'humus qui vont se retirer, ce sont des racines qui sont restées dans le sol-là. Même si vous labourez, ce sont ces éléments, ces petites couches de racines qui sont dans les sols, qui se décomposent sans l'humus qui se retrouve dans nos sols. Alors ça, c'est l'élément de conseiller. Moi, pour répondre, c'est des pousses.
Alors, vous dites qu'il faut enfouir les éléments dans les sols. Et comment s'est fait cet enfouissement?
L'enfouissement, ce que je vous ai dit, l'enfouissement, c'est pas avec les labours, vous faites l'enfouissement. Alors cet enfouissement-là, ça permet au sol d'obtenir des éléments qui peuvent se décomposer et enrichir le sol en humus.
Voilà, et qu'est-ce qu'il faut enfouir à toutes les herbes qu'on a coupées
Les herbes qu'on a coupées, par exemple des résidus de récolte, parce qu'avec les récoltes, peut-être comme nous déconseillons toujours la monoculture, alors il fallait trouver les résidus, par exemple, des résidus que vous allez enfouir en laboura, et ces résidus là vont se décomposer, ça dispose au sol, ça donne un lit, ça donne déjà au sol la capacité de bien produire, au lieu de laisser ces résidus se décomposer, ou bien d'enlever ces résidus. Si vous les enfouis, et pour permettre une agriculture qui peut être durable. Sinon, si vous les laissez comme ça, vous semez ces éléments comme ça, et ça peut être difficile d'obtenir des rendements escomptés. Et même pour ceux qui utilisent les engrais, parce qu'ils utilisent des engrais chimiques, sans résidus, sans enfouir les éléments dans les sols, alors ces engrais-là sont appelés à disparaître, parce que vous connaissez, dans nos sols tropicaux d'abord, qui manquent beaucoup, dans nos sols tropicaux, dès que vous laissez les engrais comme ça, les engrais, ça se divise en trois parties. Les un tiers, ce sont les micro-organismes, c'est nos types qui bouffent, et après les un tiers, c'est le sivage, et les un tiers, c'est qui va sera occupé par ça sera utilisé par les cultures. Or, le lessivage lâche déjà la pollution de l'environnement. Alors, c'est que l'enfouissement des résidus de récolte, l'enfouissement des choses, ça constitue un lit, une bonne préparation, un bon jet pour avoir des résultats escomptés.
Bien, nous avons un premier auditeur en ligne, Théodore, il nous appelle de Calémy. Vous voulez également participer à cette émission. Nous parlons de la préparation du sol réservé à l'agriculture. Des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h, 15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Comment se fait la préparation du sol réservé à l'agriculture? Philippe Ngolo, ingénieur agronome, intervenant depuis Mbujimayi, et notre invité. Théodore, vous êtes à Calémy, et Christophe, depuis Aba, à Nitouri. Théodore, bonjour, et quelle est votre préoccupation?
Bonjour, c'est Zolali.
Oui, allez-y.
Oui. Oui. Sinon, je ne voudrais pas tellement déranger l'invité, mais j'ai profité de l'occasion, parce que je venais de suivre ici la chronique, là, vous avez parlé des gingembre, ce sont des fruits. N'est-ce pas?
Allô? Ouais, candidement, on a parlé de gingembre, oui.
Mais là, je voudrais que vous puissiez nous identifier. À Calémy, nous ne connaissons pas ça. C'est quoi? C'est des fruits ou des légumes?
Bon, voilà. Ça, c'était, on a parlé de ça dans le conseil du jour.
mon sujet ne s'occupe pas.
Voilà, aujourd'hui on ne parle pas du gingembre. Là, c'était au niveau du conseil du jour. Mais maintenant, nous sommes en train de parler de la préparation du sol réservé à l'agriculture. Est-ce que vous avez une question par rapport à ce sujet, M. Théodore?
Oui. Alors, je voudrais aussi parler par rapport à la chose. Mais quand on voudrait labourer la terre, chez nous ici à Calémy, souvent dans l'ancien temps, on avait des bons de récolte. Maintenant qu'aujourd'hui, on est en train de chercher à mélanger avec les engrais chimiques. Faut-il utiliser les engrais chimiques ou faut-il labourer la terre? Voilà ma préoccupation.
D'accord. Monsieur Philippe, bon, un instant, vous allez répondre tout à l'heure. Christophe se trouve à Aba, Nitouri. Bonjour.
Oui.
On vous écoute, Christophe. Christophe n'est plus là, désolé. Oui, monsieur Philippe, vous avez la parole.
Bon, pour M. Théodore, il parle qu'on constate à Calémy, les gens utilisent beaucoup d'engrais. Est-ce qu'il faut utiliser beaucoup d'engrais ou faut faire du labour? C'est la question, non?
Oui, c'est cela la question.
Oui. Et je disais, là où nous sommes en train de partir, d'abord, les scénarios techniques que nous avons développés sont en train de déconseiller des gens de pouvoir les conseiller déjà pour les engrais chimiques surtout. Pourquoi? Parce que les technologies que nous avons développées d'agriculture de conservation arrivent à résoudre beaucoup de cas sur par exemple, parce que avec l'agriculture de conservation que nous avons développée, parce qu'il a trois principes, par exemple, utilise d'abord la couverture végétale qui est permanente, et puis elle ne fait pas allusion au labour, à la préparation du terrain, au labour. Parce que ce qu'on a constaté avec les labours du sol, on a constaté souvent que avec les labours, ça fait d'abord, ça fragilise les sols, la structure du sol, et ça arrive à émettre encore, émettre des gaz carboniques, comme nous avons des problèmes d'effet de serre. Mais...
Oui, allez-y. Monsieur Philippe. Voilà, je pense que Monsieur Philippe Ngolo n'est plus en ligne. Il y a peut-être quelques soucis au niveau de la liaison téléphonique, mais nous allons recevoir en attendant Christophe qui nous appelle depuis Yaba, Nitouri. Christophe, bonjour.
Bonjour Jordi, bonjour à l'invité. C'est Christophe depuis Yaba, la frontière avec les Soudan du Sud, dans la nouvelle province du Haut-Touéné.
Quelle est votre préoccupation, Christophe, depuis Yaba?
J'ai seulement des petites questions à poser à l'invité. Il n'y a pas d'autre visage d'effet de brousse. Or, quelque part ici, les agronomes nous conseillent, disent que les cendres qui est ici, du fait des brousses, servent comme engrais. Et les gens ont ici l'habitude de défricher les forêts pour préparer la culture du riz à partir du mois de décembre. On prépare à partir du mois de décembre, janvier, au mois d'avril, on commence à labourer pour ce mois de juin. Si on ne met pas l'effet des brousses, donc des herbes qui sont défrichées là prendront combien de temps pour que ça disparaisse et laisser la qualité de la terre.
Voilà, donc vous dites que les ingénieurs qui sont là-bas, à bas, vous conseillent de recourir au feu de brousse parce que les cendres vont fertiliser la terre.
Oui, les cendres fertilisent les terres comme engrais.
Merci Christophe. Ingénieur Serge, vous êtes à Kindu, bonjour.
Oui, je suis ingénieur Serge King à Kindu. Je voulais juste soutenir aussi la préoccupation que mon confrère là vient de soulever. Mmh. Juste pour donner l'importance de l'agriculture et du feu des pousses dans les champs. J'aimerais juste vous éclaircir par rapport à ça. Maintenant, j'aimerais que l'invité puisse nous donner alors l'importance du feu des pousses, puisqu'il il a nié l'importance du feu des pousses aux champs. Le mec, peut-être que tu nous éclaircis l'importance primordiale au fait de vous poser. Ma deuxième préoccupation était de savoir, ici à Kindu, je vous assure, monsieur, je dis Daniel Kachama, on avait distribué des tracteurs aux mamans qui pratiquent souvent les gens par-ci par-là. Après quelques jours, ces mamans-là essayaient avec le tracteur dans leur champ. Et comme il a été le résultat, il nous a dit que le résultat n'était pas bon puisque les labours auxquels effectuaient les tracteurs ne correspondaient pas au rendement qu'ils produisaient auparavant. Mieux vaut faire l'agriculture au fait, ils vont faire l'incinération, c'est de les donner les tracteurs. Maintenant, le gouvernement a pris ces tracteurs-là, et ils se sont disponibilisés. Mais ces mamans-là avaient continuer à souffrir même en faisant l'air agricole. J'aimerais que l'invité nous dise, est-ce qu'on peut labourer tout un champ d'un hectare? C'est difficile quand même. L'invité puisse nous éclaircir par rapport à ça. Labourer un champ d'un hectare, ce n'est pas facile. Par rapport au labour, je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur l'ingénieur Philippe. Vous êtes de nouveau en ligne. Vous avez suivi Théodore de Calimi. Il dit que vous défendez. C'est plutôt Théodore Christophe qui nous a appelé depuis Aba. Il dit que vous défendez les feux de brousse et pourtant là-bas les ingénieurs agronomes les conseillent de recourir aux feux de brousse parce que la cendre va fertiliser le sol. Alors qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui, la cendre qui fertilise le sol, ça c'est l'effet de paille. L'effet de paille parce que ça ne traduit pas dans la durabilité. C'est pour quelques temps seulement ça produit, c'est fini. C'est-à-dire ça c'est pas durable. Parce que cet effet de pousse, la cendre là, c'est la potasse seulement qui est là. Et cette potasse qui sera utilisée, c'est pour ce temps-là, dès qu'il y a des plouets, c'est parti. Mais dans quelle durabilité? Donc il viendra avec une autre qualité subséquente, quelle récolte qu'il aura encore? Moi, je crois que nous avons toujours, nous, conseillé cette pratique Nous devons travailler dans des durabilités en faisant allusion souvent aux plantes de couverture, par exemple l'agriculture de conservation, pour pérenniser l'agriculture, pour pérenniser les bonnes récoltes, dans ce sens-là.
Bien, et puis l'ingénieur Serge nous dit, il nous parle, il nous donne l'expérience des Kindou, où des tracteurs ont été remis aux mamans pour le faire les labours, mais elle trouve que c'est pas très adapté, donc il faut vaut mieux recourir à l'incinération au feu de brousse. Alors il dit, est-ce qu'on peut faire une autre préoccupation, est-ce qu'on peut labourer un champ d'un hectare?
Bon, c'est-à-dire, bien sûr, on a remis les tracteurs, tel qu'on nous a fait là-bas, et ça dépend maintenant de la hauteur des herbes. Il y a les rototiteurs qui arrivent d'abord à battre toute la haute herbe, et puis les charis arrivent en fouille, en fourre ce qui est déjà rabattu, dans ce sens-là. Mais, à l'extrême, s'ils arrivent à incinérer, ok, mais, donc, après le labour, ils arrivent maintenant à mettre les cultures de couverture en relais. Par exemple, après avoir semé, leur manioc ou bien leur lyrie ou quoi, mettent en relais. Presque à la maturité, on introduit les plantes de couverture. Et ces plantes de couverture ne permettront plus à faire ce qu'ils vont faire. Et comme vous pouvez faire, par exemple, avec les autres générations là. Ça, ils vont pérenniser leur agriculture, ils vont travailler dans la durabilité.
Voilà. Bah alors, revenons maintenant à un champ, un hectare. Est-ce qu'on peut arriver à faire, à labourer sans tracteur?
C'est-à-dire, moi, je dis que si labourer, c'est-à-dire, ce que nous parlons ici de l'agriculture de conservation, c'est-à-dire, ils peuvent labourer, on peut préconiser le labour pour la première année. À la seconde année, ça ne sert à rien parce que on va introduire déjà des plantes de couverture en relais. Par exemple, qui vont déjà arriver à fertiliser ces sols-là, restaurer la fertilité du sol, de sorte que pour les cultures prochaines, aient des bons rendements dans ce sens-là.
D'accord. Trésor Mwanza nous appelle de Kinshasa. Bonjour. On vous écoute, Trésor.
J'ai appelé justement pour savoir quels sont les inconvénients que le fait de la brousse pose après avoir semé. Donc,
voilà les inconvénients du fait de brousse. Oui. Merci. Sébastien de Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute.
Oui, je salue d'abord l'invité.
Oui, quelle est votre question?
Ma préoccupation est la suivante. L'invité nous a dit que lorsque on est en savane, lorsqu'on est en présence de la mauvaise herbe, on fait l'enfuir pour enrichir le sol. Et le problème se pose lorsque on est en forêt, on est en présence d'une abondante biomasse. À ce moment-là, les paysans, des fois, ils se retrouvent en difficulté. Et la meilleure des solutions, c'est de faire le brûlis. Il va appliquer la culture sur le brûlis afin de pouvoir se débarrasser de cette biomasse. Au même moment, l'agriculture sur brûlis présente encore un danger pour l'environnement. Quelle est la solution qu'ils ont pu donner à nos paysans lorsqu'ils sont en butte à cette difficulté?
Voilà, quelle solution de rechange ingénieur Philippe.
Oui, je vous écoute.
Vous avez suivi, Trésor parle et vous demande quels sont les inconvénients du feu de brousse. Et Sébastien oui. Nous dit qu'en forêt, vous avez dit tout à l'heure qu'on peut enfouir les mauvaises herbes en savane, mais en forêt, c'est très compliqué. Oui. D'où ce qui pousse les paysans à recourir au feu de brousse. Alors, il veut savoir, alors si on ne doit pas recourir au feu de brousse parce que cela a des conséquences sur le plan environnemental, alors quelle est la solution qu'est-ce que vous proposez d'autre?
Bon. L'autre parlait des feux de brousse et ses inconvénients. Moi, j'avais parlé déjà des inconvénients du point de vue environnemental et agronomique. Et, pour voir, du point de vue agronomique, ça détruit d'abord la structure, l'humice, ça détruit les micro-organismes, ça détruit et la nappe phréatique et baisse l'acidité du sol est élevée, etc. Mais à ce qui concerne l'autre ami qui a parlé de la fertilité des choses au niveau de la forêt, l'agriculture itinérante. Nous, nous avons été dans une des conférences avec les amis de Lodja, ou qui se trouvent dans cette situation-là. Alors, est-ce une forêt équatoriale? Ils sont arrivés à appliquer l'agriculture de conservation comment? D'abord, ils ont fauché, ils ont fait cette incinération-là pour la première année. La seconde année, lorsqu'ils ont semé, ils ont planté, ils ont introduit en relais les plantes de couverture. La seconde année, ils n'ont plus préparé le terrain. Ils ont vraiment utilisé ces plantes de terrain. Les plantes de couverture ont déjà enrichi les sols, qui ont permis à enrichir ces sols-là et obtenir des rendements escomptés. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, pour ceux qui sont dans des forêts, c'est difficile de séparer cette moment. Ils peuvent faire cette incinération, c'est le moindre mal, mais mettre en relais les plantes de couverture pour arriver à restaurer la fertilité du sol.
Bien. Adrien Amouyeti est à Lumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel. Bonjour aussi à notre invité, l'ingénieur Philippe. J'ai trois questions à poser à l'ingénieur Philippe. La première, j'aimerais savoir comment se passent les amendements d'un sol acide. La deuxième, dans le système...
La première question.
Non, j'aimerais juste savoir comment se passent les amendements dans un sol acide.
OK, allez-y.
Et la deuxième, dans les systèmes traditionnels, comme la préparation du sol commence souvent par quoi? Et là, c'est la deuxième, la troisième et la dernière question. Quels sont les inconvénients du labour pourraient compromettre d'autres objectifs de l'agriculteur? Merci, monsieur Jody Daniel.
Bien, nous avons également en ligne Clément Daillé de Kananga. Bonjour Clément.
Bonjour Jody, bonjour aussi à notre invité et aussi à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute Clément.
D'accord, je voudrais juste demander à notre invité, par rapport à la préparation du sol, il y a des fois que les gens, soit les techniciens, que ce soit les paysans, utilisent les tracteurs. Et d'autres d'une part peuvent vraiment... à y aller par l'état d'Emmanuel pour bien dire utiliser le haut. Par rapport à ce qu'on peut obtenir comme résultat, est-ce qu'il y a-t-il moyen pour que nous puissions avoir un bon résultat, aller par tracteur ou bien aller par le système manuel? La première question. Et puis la deuxième question, je voudrais juste insister par rapport à ce qui concerne le feu de brousse. Je vois par ce que les auditeurs d'autres donnent, soi-disant, certaines raisons qui risqueraient vraiment de compliquer les gens, soit de désorienter les gens en ce qui concerne le feu de brousse. Est-ce que normalement, le feu de brousse en soi détruit le sol ou bien nourrit le sol? Puisque d'une part, par rapport à ce qu'on parle de la cendre en question, la cendre normalement, est-ce qu'il y a-t-il une quantité normale qui peut normalement aider le sol à récupérer les éléments ou bien le feu de brousse détruit le sol? Et la troisième question, Quelle est la bonne profondeur pour bien dire à ce qu'on sait le labour qu'on peut utiliser juste pour obtenir le bon résultat? Merci, Jody.
Bien, merci Clément. Ingénieur Philippe.
Oui, monsieur le journaliste.
Oui, Adrienne veut savoir si vous pouvez parler des amendements acides. Elle veut en savoir un peu plus.
Oui, bon, pour les amendements acides, d'une manière générale, nos sols sont toujours acides. Nos sols tropicaux. Sont toujours acides. Alors, pour les sols acides, il y a deux voies. La première voie, d'abord, c'est l'amendement calcaire, chercher la chaux, et puis pour arriver à élever les pH. En plus de ça, il faut arriver à mettre beaucoup de matières organiques qui se composent souvent en amphotère. Dans ce sens-là, ils vont arriver à résoudre ce cas d'acidité. Alors, la deuxième question, je n'ai pas bien suivi la deuxième question de madame là.
Oui, elle veut savoir parler du système traditionnel des préparations du sol. Est-ce que elle veut savoir ça commence par quoi dans les systèmes traditionnels? Lorsqu'on on se met à préparer les sols, quelle est la première étape?
Le système traditionnel, même elle est en train de faire ça parce que elle va commencer d'abord à choisir les terrains, les fiches, puis faire le labour manuel. labour manuel peut-être à une profondeur limitée, ça dépend de la culture. Par exemple, pour les manioc et autres, par exemple, ceux qui font là-bas, par exemple, si avec labour manuel, il se limite souvent peut-être à 15 cm ou 10 cm. Mais le tuberculé, le QM, tu vois, c'est sans retirer. Mais si c'est une culture, ce sont des semaines, des cultures, par exemple, ce sont les graines, ou bien les grains, avec la préparation du sol à la houe, à 15 cm, ça donne quand même des bons résultats. Mais moi, ce que je dis, c'est ces étapes-là, ils font ça, ils fauchent, ils incinèrent, ils labourent. C'est de la bourre à la roue et puis c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais ce que nous avons pu mettre, c'est on sait que c'est une activité paysanne qui fait nourrir les gens, mais à ce que nous devons évoluer et aller dans la modernisation de l'activité. Parce que si on n'arrive pas à se poser la question, si je faisais aussi d'une autre façon, c'est difficile d'évoluer avec les journalistes dans ce sens-là. Je vais poser encore une troisième question, parler de l'inconvénient. Quel inconvénient là, madame? Oui?
Mais vous disiez, Adrienne.
Je vais poser la troisième question, je vais parler de l'inconvénient de quoi?
Bon, il y a un autre auditeur, Clément, qui dit, il veut savoir les inconvénients du feu de brousse. Vous avez parlé du feu de brousse, vous dites que ça détruit. Ailleurs, on entend que ça nourrit aussi les sols. Alors, il veut savoir qu'est-ce qu'on peut retenir. Est-ce que c'est une bonne pratique ou on doit l'abandonner totalement parce que là, ça apporte aussi des éléments, ça fertilise les sols, voilà.
Ça dit parmi les grands fléaux qui détruisent l'agriculture congolaise, congolaise, c'est parmi ces usages de cette technique. Par exemple, l'agriculture itinérante qui brûle, l'effet de brousse, tout ça. L'effet de brousse, ce que je vous dis, c'est-à-dire, ça détruit toute la couche de matière organique. Ça détruit la grande partie de matière organique. Or, la matière organique, c'est celle qui constitue vraiment la couche qui permet qui favorise la bonne production. Et si ça tue les micro-organismes, la biologie du sol, une partie de la biologie du sol. Et ensuite de ça, ça solidifie le sol. Alors, c'est à ce sens-là que nous sommes en train de dire que même la biodiversité là, les savanes que nous avons, c'est les savanes, c'est nous qui les voulons. Parce que c'est nous, à force d'utiliser l'effet de brousse, nous sommes en train de détruire de plus en plus nos sols.
Alors, donc, Philippe, lorsqu'on se retrouve dans une forestière, par exemple, et qu'il faut préparer le sol, si on ne met pas l'effet de brousse, c'est un grand travail. Il faut couper les arbres, il faut les enfouir. Or, nos paysans, les agriculteurs n'ont pas toujours tous les moyens, l'équipement qu'il faut pour faire ce travail-là. Alors là, ça devient un peu difficile.
Bon, moi, ce que je dis, c'est que pour les forêts, c'est le moindre mal. Mais la première année, on le fait. La deuxième année, on le fait plus parce que, avec ça, après avoir installé les cultures, on doit introduire les plantes de couverture en relais. Et ça, ces plantes de couverture vont rapidement restaurer la fertilité qui était détruite.
D'accord. Alors, on va terminer avec Fabien de Calémy et Jules de Pierrou. Fabien de Calémy, bonjour.
Bonjour au Capi Service. Bonjour à tous les aimables solitaires de la Radio de la Paix.
Mais qu'est-ce que vous avez à nous dire, Fabien?
J'ai une petite préoccupation, bien entendu. Comment identifier la bonne qualité du terrain, c'est-à-dire, lorsqu'on a trouvé son terrain de la culture, qu'est-ce qui va montrer à l'agriculteur le terrain qu'il a choisi sera productif ou pas? Voilà ma petite préoccupation.
Merci bien. Jules, vous êtes à Arou, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Jules.
Moi, je suis ici. Je voudrais poser la question à monsieur l'invité, est-ce qu'il y a un appareil spécifique pour mesurer la qualité de fertilité de la terre?
D'accord. Alors, Monsieur Philippe Ngolo, il y a les deux questions, on peut dire, se recoupent. Fabien nous dit comment identifier un bon sol. Hein, comment s'assurer que ce sol va donner un bon rendement à la fin. Et Jules veut savoir si vous avez un appareil qui vous permet de détecter un bon sol.
Merci beaucoup. Bon, en ce qui concerne l'équité des choix du terrain, le choix du terrain est fonction de la culture qu'on doit installer. Il y a les plantes indicatrices. C'est les mamans ici, des fois, des plantes indicatrices qui montrent que tel endroit je vais avoir telle récolte, telle ou telle ou telle récolte. L'assistance, là, c'est une équité très simple. Et pour nous, on n'a pas d'appareil pour arriver à détecter les formes de fertilité, mais ici, on fait les analyses auparavant, les analyses effectives, par exemple, en faisant les analyses agronomiques, l'analyse du sol, en prenant des échantillons, et puis vous pouvez aussi faire les analyses de la feuille, faire la trouver la composition de la feuille qui traduit directement la fertilité des éléments du sol qui se trouvent dans ce sol-là. Mais d'une manière générale, d'une manière pratique, les gens recourent toujours aux plantes indicatrices pour arriver à détecter qu'est-ce qu'il faut pour telle ou telle culture, dans ce sens-là.
Bien, donc les analyses se font au niveau du laboratoire. On prend une échantillon du sol.
Oui, au niveau du laboratoire. Oui.
Bien, mais merci Philippe Ngolo. Je rappelle que vous êtes ingénieur agronome intervenant depuis Mbujimayi au Kassai, dans la province du Kassai. Merci et à la prochaine.
Ok, merci, je vous remercie.